Vous pouvez donner une leçon à un élève pendant une journée, mais si vous pouvez lui apprendre à apprendre en suscitant sa curiosité, il poursuivra le processus d'apprentissage aussi longtemps qu'il vivra. Clay Bedford, 1903-1991, industriel, ingénieur, manager américain, a effectué une brillante carrière chez Kaiser Industries, avec laquelle il est devenu administrateur de société et président de Kaiser Aerospace Electronics. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 30 mars 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Notre thème du jour, comment améliorer les apprentissages du français et des maths en primaire. Pour cela, au téléphone, nous recevons Jean-Michel Jakarczuk, retraité, professeur de lettres, formateur à l'IUFM.
T'as pas changé?
Oui,
oui, oui, parce que j'avais envoyé un petit mot pour qu'on change. C'est de ma faute, hein, j'avoue. Hein. Vous êtes formateur, rédacteur au cahier pédagogique et auteur de nombreux livres de pédagogie. C'est bien ça ou vous voulez en rajouter, Jean-Michel?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Oui, parce que l'IUFM, ça n'existe plus maintenant. C'est ce que vous m'aviez fait remarquer. Voilà, c'est ça. Avec mes excuses. Allez, le petit billet
alors,
d'humour.
Un petit billet d'humour. La langue française est très dure. Certaines phrases, nous pouvons les prononcer, mais pas les écrire. Un petit exemple. Un saut, S-O-T, monte sur une échelle avec un saut, S-E-A-U, pour aller décrocher un saut, S-C-E-A-U. L'échelle glissa et les trois sauts tombèrent. Comment écrivez-vous saut?
Oui, c'est ça.
C'est vrai que c'est compliqué.
Allez bien. Oui, c'est vrai que c'est compliqué hein, dans ce cas-là.
Ouais. Voilà, Sylvie, tu peux nous présenter le thème du jour.
Oui, bah, tu vois, j'étais encore sur ton billet d'humour. Je réfléchissais, tu vois. J'ai du mal ce matin, j'ai mal dormi. Alors, l'éternelle question, comment améliorer les apprentissages? Malgré les réformes successives effectuées par les différents ministres de l'Éducation nationale, rien n'y fait. Les résultats PISA s'avèrent peu concluants dans les matières dites essentielles en français ou en maths. Tous les élèves doivent pourtant maîtriser les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, à la fin de l'école primaire. Mais est-ce vraiment le cas? Chaque année, les élèves entrant en CP et CE1 ont une évaluation sur leurs connaissances et compétences en français et maths. Ces évaluations vont donc permettre d'identifier les élèves en difficulté et de mettre en place un accompagnement pédagogique à l'aide de fiches ressources. Je voulais justement poser la question à Jean-Michel. C'est quoi ces fiches ressources? Elles sont effectuées par qui? Par l'Éducation nationale, je suppose.
C'est très bien de donner des fiches, mais... On ne peut pas suivre comme ça des fiches et croire que ça va résoudre les questions. Il faut que les enseignants ensuite s'approprient. Moi, ce que je déplore par moments, c'est qu'on ne fait pas assez appel à la créativité, on ne développe pas assez la créativité des enseignants. Je pense qu'une fiche, ça peut être un point d'appui, un support, mais ça ne peut pas être appliqué comme ça. Même si y a des enseignants qui ont peu de formation, ça les sécurise bien et ça, c'est positif. Mais... une fiche en elle-même, sans mode d'emploi, sans la patte de l'enseignant, parce que c'est ça qui motive
l'élève
pour le métier. L'élève, mais l'enseignant d'abord, quoi. D'avoir un minimum de créativité. Donc oui, des ressources, mais pas des injonctions à faire. Et c'est parfois ce qui arrive quand même.
D'accord. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale, Papniad, prône, comme les précédents ministres, la nécessité de remettre au goût du jour la dictée. On va écouter, là, sur Europe 1, en novembre 2022, les résultats des évaluations des élèves, justement.
Le ministère de l'Éducation nationale a donc dévoilé hier soir les résultats des évaluations de septembre.
Des classes de CP, CE1 et de 6e en maths et en français, alors qu'une baisse de niveau avait été remarquée en 2020, notamment en raison de la fermeture des écoles pendant la crise sanitaire. Les élèves semblent avoir rattrapé leur retard, Louise Salé.
Oui, ils ont retrouvé leur niveau d'avant Covid dans toutes les matières, si ce n'est en français. Quelques difficultés persistent dans la lecture et l'écriture pour les CE1 et les 6e ont un peu de mal dans cette matière également. Édouard Geffray est directeur général de l'enseignement scolaire.
D'abord, l'année dernière, vous vous souvenez que janvier et février ont été perturbés dans les écoles et dans les collèges. Quand on a observé le résultat en 2020, à la suite du confinement, on a observé que certaines compétences étaient plus impactées par la crise sanitaire que d'autres. Par exemple, écrire des mots. Et ce qu'on voit cette année, c'est que ce sont les mêmes compétences qui ont également été impactées. Donc voilà, c'est ce même mouvement qu'on retrouve.
Point positif, les écarts de niveau entre les établissements d'éducation prioritaire et les autres se resserrent en CP et CE1. Preuve, d'après le ministère, que le dédoublement des classes porte ses fruits.
Et ça, c'est une première. C'est-à-dire jusqu'à présent, en CP, on avait des écarts qui étaient importants à l'entrée. Et là, pour la première fois, on a des élèves qui sont bien meilleurs, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient.
En sixième, cependant, en maths, les différences entre élèves s'accroissent. Il y a ainsi davantage de très bons, mais aussi davantage de décrocheurs.
Alors dans cet extrait, dans toutes les matières, les élèves ont rattrapé leur retard suite au confinement. On observe des difficultés en français pour les CE1 en lecture et écriture, et pour les sixièmes, le français reste aussi un problème. Alors nous savons que chaque enfant scolarisé en maternelle n'arrive pas tous avec la même pratique de la langue, avec une richesse identique du vocabulaire, selon leur milieu social et leur capacité à s'adapter. Pouvons-nous dire, Jean-Michel, que les inégalités commencent dès la maternelle et celles-ci sont-elles résorbées dès l'entrée en CP après 3 ans de maternelle ou pas?
Alors, il y a un sociologue, là, Camille Peigny, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les inégalités au berceau ». Effectivement, je pense que même avant la maternelle, les inégalités, elles existent, les inégalités culturelles. Et ça ne veut pas dire du tout qu'il faut être dans le fatalisme et la résignation. Effectivement, la responsabilité de l'école est très grande. Elle ne peut pas tout résoudre, mais elle peut quand même au moins éviter l'aggravation. Au mieux, la réduction, c'est encore mieux, mais au moins empêcher l'aggravation serait déjà quelque chose. Mais pourquoi il y a ces inégalités? Et parfois, on met trop l'accent sur les inégalités en termes de revenus, en termes de conditions de travail qui sont réelles, mais il y a aussi toutes les inégalités culturelles et le rapport au langage en particulier, puisqu'on parle beaucoup de la langue, le rapport au langage qui est très différent selon les milieux sociaux et en particulier, et ça paraît quand même un facteur de réussite essentiel à l'école, la capacité de verbaliser ce qu'on est en train de faire. Et il y a des enfants qui sont entraînés tout de suite à utiliser le langage tout le temps, y compris quand un enfant met la table, on apprend à l'enfant à mettre la table dans des familles sont plutôt instruites et culturellement qui ont plus de diplômes, etc. On a tendance à verbaliser les choses, à dire voilà, tu fais ça, tu mets la fourchette. Et dans des familles populaires, on n'a pas forcément l'idée de le faire. Je crois que c'est parfois. Donc c'est l'école qui doit aussi, d'une part, développer cette verbalisation très tôt chez des enfants, dès la maternelle, dès 2 ans pour les milieux les plus défavorisés, c'est encore mieux. Mais aussi encourager les familles à parler beaucoup avec leurs enfants, et pas seulement en termes de est-ce que tu as été sage à l'école, mais plutôt en termes de qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école. Voilà. Et donc cette verbalisation, elle est essentielle pour la réussite. Et, bon, et après, pour ce qu'a dit dans l'extrait que vous avez passé, le fait que c'est très difficile à évaluer vraiment par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que avant le Covid, la situation n'était pas extraordinaire. Donc le fait de rattraper, bon, tant mieux si c'est le cas, mais c'est pas suffisant.
Oui, nous, on se pose la question aussi, justement, avec Jackie, puisqu'on intervient dans des CP. On voit bien, quand même, qu'il y a eu vraiment le gros problème. Bon, déjà, en maternelle, le fait du confinement et que les petits n'aillent pas à l'école. Justement, ceux qui, déjà, au départ, n'avaient pas beaucoup de vocabulaire, bon, effectivement, c'est parvenu tout de suite. Et même en CP, on voit bien que les élèves ont quand même encore des lacunes. Donc, dire qu'ils ont rattrapé, ils n'ont pas été à l'école pratiquement pendant 8 mois, en gros, parce qu'il y a eu plusieurs confinements. Je ne sais pas si vraiment ils ont rattrapé et comment ils vont pouvoir rattraper plus ou moins ce retard. Est-ce qu'on a mis effectivement des mesures en place pour ça? J'en doute bien.
Non, puis je vois dans les réseaux prioritaires, la question des dédoublements, c'est une bonne chose. Sauf que CP, CE1, ils sont dédoublés. Mais après, ils sont en classe complète. Donc les enfants qui ont déjà des problèmes de suivi, quand ils vont se retrouver en classe complète, ils vont retomber dans les problèmes de niveau. Moi, je le vois. Hein. Je vois en CM2, enfin en CE2.
CE2,
puisqu'on se retrouve avec des classes complètes après. Il y a des enfants qui retrouvent encore des problèmes de niveau après. Et il y aurait peut-être dû y avoir, dans les réseaux prioritaires, peut-être plus de... Enfin, si on voulait dédoubler, moi, je trouve qu'il aurait fallu dédoubler tout au long.
Oui, plus de flexibilité, oui.
De toute façon, dédoubler, le problème, c'est aussi quelle pratique on mène avec une classe dédoublée. Si on fait la même chose avec 12 élèves qu'avec 24, c'est pas très intéressant, ouais, compte tenu du coût quand même énorme. C'est un coût énorme, le dédoublement,
oui,
y compris en locaux et tout ça. Donc, il y avait quand même avant un dispositif qui était plus de maîtres que de classe,
oui,
c'est-à-dire qu'il y avait des intervenants et c'était, voilà, parfois plus intéressant. Et vous avez raison de mettre l'accent sur la transition où il faudra passer de 12 à 25, enfin 14 à 28, parce que c'est plutôt ça. Il faut le préparer, quoi. Et aussi, il faudrait se dire qu'il faudrait surtout que les enseignants profitent de ce qu'ils ont fait avec 12 élèves pour le réinvestir avec plus d'élèves. C'est-à-dire qu'on peut essayer des choses, être plus près des élèves avec des plus petits effectifs, mais on peut le faire avec des plus gros effectifs si on est entraîné à le faire aussi, d'une certaine façon. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et il ne faudrait pas se dire, maintenant que j'ai 25 élèves, je ne peux plus faire, alors que oui, on peut continuer à faire des choses intéressantes.
C'est vrai. Alors, la langue française est-elle si compliquée entre un vocabulaire très riche, une grammaire rigoureuse, une phonétique différente de l'écriture? Et on l'a vu tout à l'heure avec le billet d'humour donc de Gérard. En français, quelles sont les difficultés les plus répandues au niveau des élèves?
Alors, ce que je déplore, c'est que parfois, on réduit le français à l'orthographe et la grammaire. Une petite anecdote, moi, j'avais des élèves de 6e, je leur demandais au début de l'année, toujours à quoi ça sert la matière français, quoi. Et il parlait d'orthographe, de conjugaison, de grammaire. Il parlait pas de lecture et d'écriture. C'est trouvé ça incroyable, quoi. Alors que le français, c'est d'abord de la lecture et d'abord de l'écriture et de l'oral. C'est d'abord ça, quoi. Et d'ailleurs, quand on lit, lire, écrire, compter, et la grammaire, l'orthographe sont au service de l'écriture ou de la lecture. D'ailleurs, pas la même chose. Et ce que je crois, c'est que bon, c'est vrai que la langue française a des difficultés, comme enfin, il y a d'autres langues qui ont d'autres difficultés.
Oui, je crois que l'anglais est encore plus difficile à apprendre pour les enfants. Hein.
Pour certains, oui, enfin, en tout cas, le rapport son écrit est encore plus éloigné en anglais, sauf les terminaisons. Bon, enfin, après, on va pas entrer dans les questions de comparaison de langues qui sont très intéressantes d'ailleurs. Et je pense aussi qu'il y a des élèves qui enfin, on en a pas mal dans le milieu de l'éducation prioritaire de chez moi, qui parlent plusieurs langues. Et ça, c'est une richesse qu'on n'utilise pas suffisamment. Et donc, les comparaisons de langues, leur demander même, mais ils n'osent pas toujours le faire, de comparer avec leur propre langue. Est-ce que, par exemple, il y a ce même rapport entre l'écrit et le son? Bon. Mais au-delà de ça, les difficultés... Alors, quand on dit la grammaire... elle est rigoureuse, oui, mais en même temps, ce que les enfants... Enfin, il y a un écart très grand entre la pratique réelle de la langue de tous les jours par les enfants et la grammaire. C'est-à-dire qu'il faut bien leur faire observer... La grammaire, ça devrait être d'abord une observation de ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, il y a des temps qui sont très utilisés et d'autres qui ne sont pas du tout utilisés dans la langue orale et même écrite. Moi, je vois quand même, parce que je fais aussi je continue à faire de l'aide au devoir, je vois des élèves qui doivent apprendre la conjugaison du passé antérieur, qui est un temps complètement obsolète que personne.
Je croyais qu'ils l'avaient retiré, non?
Oui, mais même, alors, c'est retiré dans les programmes officiels, mais quand même, ça, dans les manuels, il y a ça. Enfin, c'est anecdotique, mais je crois qu'il faut se dire d'abord que les élèves comprennent que quand ils parlent, ils utilisent l'imparfait. C'est d'abord ça, quoi. Et ensuite, on essaye de structurer ça, de dire, voilà, on a observé à l'oral et à l'écrit, c'est pas la même chose. À l'oral, on n'utilise quasiment plus le futur, alors qu'on emploie plutôt la forme aller plus infinitif. Hein. On dit plutôt je vais partir demain et non pas je partirai demain. Mmh. Dans certains cas, voilà, c'est des phénomènes qu'il faut faire observer. Et malheureusement, on est encore trop dans une grammaire qui est plutôt normative. Il y a des normes, bien sûr, mais ces normes, elles existent dans le langage avant tout. C'est pas quelqu'un qui a dit il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Quant à l'orthographe, je crois qu'il y a une obsession française pour l'orthographe. Alors c'est vrai que le niveau a baissé en orthographe, ça c'est évident, y compris d'ailleurs chez des enseignants. Hein. Qui font des erreurs d'orthographe. Alors on incrimine des fois les SMS, ça je crois pas du tout, parce que je pense que les gens qui manient bien, ils peuvent passer du SMS au langage structuré. Par contre, je suis pas sûr qu'on arrivera à redresser complètement la barre, parce que peut-être parce que l'orthographe simplifiée, elle est très peu simplifiée. Hein. De toute façon, il faudrait des réformes sans doute plus importantes. Comme l'accord du parti passé, par exemple, mais bon, ça c'est un autre débat, ça ne dépend pas des enseignants. Mais en tout cas, il faudrait se donner des priorités, c'est-à-dire, si on veut tout traiter, on traite mal les choses, quoi. Et en particulier, en se référant toujours à la sacro-sainte dictée, qui est un exercice de contrôle avant tout, non pas un exercice d'apprentissage. Alors, c'est vrai que les médias, en plus, retraduisent les propos de ministres de manière très simplifiée, en parlant de la dictée comme solution magique, alors qu'il y a plein d'autres façons de travailler l'orthographe que la dictée traditionnelle. Il y a des formes de dictée réfléchies, on réfléchit sur pourquoi on a écrit ça, etc., qui sont beaucoup plus intéressantes.
Une dictée faite avec des mots appris par cœur, c'est pas une bonne solution non plus.
Bah, oui, c'est ça, non, mais...
Ou une dictée à trous.
Il y a une grande variété d'exercices, surtout la variété, de façon générale, pas seulement pour l'orthographe, c'est la variété qui permet de résoudre les problèmes, parce que tel exercice, ça va correspondre, ça va permettre à un élève d'apprendre, un autre exercice, ça va être, un autre élève va accrocher, et voilà, c'est multiplier les occasions de travailler, mais surtout travailler l'orthographe dans l'écriture, parce que c'est quand même là, parce que la dictée, il faut bien dire que c'est un exercice très artificiel, on entend quelqu'un parler et on écrit sous sa dictée, ce qui se fait d'ailleurs de moins en moins, parce qu'autrefois il y avait des dactylos qui... Maintenant les gens ils tapent le texte directement, il y a même plus, ça. Et en plus il va y avoir de plus en plus l'écriture comme ça existe déjà, à partir de la voix.
De la voix et...
Alors c'est pour ça qu'il faudrait insister beaucoup sur la relecture, parce que moi-même, bon, je tape des messages avec la voix, mais ensuite il faut relire. Et c'est l'apprentissage de la relecture, l'idée relecture, c'est très important, par exemple. C'est peut-être beaucoup plus important que faire des dictées, par exemple.
Moi, je me souviens, les enfants, ils avaient à apprendre par cœur, à la virgule près, au point près, les dictées. Alors, il y avait 5-6 lignes à apprendre, et le lendemain matin, il fallait, sur le papier, renoter tout. Je trouvais ça très bizarre, parce qu'ils n'apprenaient pas à faire ils n'avaient pas les notions de quand il fallait le mettre au féminin, au pluriel, au masculin. Enfin, c'était très compliqué. C'était moi à la maison, en fin de compte, qui expliquait tout ça. Donc, apprendre du par cœur sans explication, c'est un peu ridicule.
Non, mais souvent, un mois après, ils font des fautes.
Oui, voilà, ils oublient, effectivement.
Mais je crois que, de toute façon, on parlait de la grammaire tout à l'heure, ou de la conjugaison. Il y a des élèves qui apprennent, sur le coup, s'ils sont sérieux, ils arrivent à avoir une bonne note et tout. Mais
on oublie.
Je vois, en fin de troisième, des élèves qui ne savent pas des choses. Et pourtant, on croit qu'on ne l'a pas fait, mais on l'a fait énormément. Et on a passé beaucoup d'heures, je dirais, c'est presque... Si j'étais un peu provocateur, je dirais que c'est du gaspillage de l'argent des contribuables, quoi. Quand on fait des heures pour quelque chose et que ça sert à rien.
Alors c'est...
Je n'ai pas les solutions magiques, hein, comme ça. Hein,
c'est compliqué. Voilà. Alors, pour apprendre une langue, hein, tout est lié. Hein, l'importance de l'écriture pour mémoriser l'orthographe, connaître l'orthographe d'un mot pour le prononcer correctement, mais aussi en assimiler le sens ou la signification, savoir lire et comprendre un texte, ça c'est très intéressant, et la compréhension pour les consignes et la réflexion. Alors, moi, je me pose la question sur la complexité parfois des énoncés de certains exercices en français ou en maths, et le vocabulaire utilisé est souvent mal compris. Faut-il travailler justement la compréhension des consignes, et dans ce cas-là, on aide les élèves de quelle façon?
Alors,
oui, parce que les consignes, voilà.
Voilà, question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis, je dirais, 40 ans. Parce que j'ai publié plusieurs versions d'un ouvrage qui maintenant s'appelle « Comprendre les énoncés et consignes ». un ouvrage avec beaucoup d'exemples et d'activités, aussi bien pour les petits que pour les lycéens. Je crois que c'est une question vraiment essentielle, comprendre, d'ailleurs, pas seulement à l'école, je dirais que comprendre les consignes, c'est quelque chose qui est dans la vie professionnelle aussi extrêmement important. Mais à l'école, les consignes ont un rôle particulier. Il ne s'agit pas, au fond, il s'agit pour les consignes, grâce aux consignes, de montrer qu'on a compris quelque chose, qu'on sait faire quelque chose. Au fond, le résultat est moins important que la compréhension de ce qu'on a fait et le processus qu'on a mis en œuvre pour faire cet exercice, ce problème, etc. À la limite, des fois, il vaut mieux n'avoir pas réussi le problème, mais avoir bien compris ce qu'il fallait faire. Parce que ça peut arriver, notamment en mathématiques, on peut se tromper dans les calculs et avoir bien compris les opérations qu'il fallait mettre en œuvre, etc. Et alors, cela, le fait que ce soit compliqué, il y a une chose qui est une façon de botter en touche, en quelque sorte, c'est de simplifier au maximum. Parce qu'on n'aide pas les élèves, je dirais presque qu'il faut apprendre aux élèves à lire des mauvaises consignes, parce que de toute façon, ils en auront. Je veux dire, arriver à se débrouiller et être un peu stratégique et avoir des bonnes méthodes qui permettent de s'en sortir. Alors, il y a des consignes qui sont infaisables, mais parfois, il y a une façon de s'y prendre qui est méthodologique, qui permet de résoudre des questions sur lesquelles, au début, on se dit « je comprends pas ». Moi, j'essaye de combattre tout le temps chez les élèves l'idée « moi, je sais pas faire, je comprends pas », parce qu'en fait, ils comprennent un peu. Donc, partir de ce « un peu » qu'ils comprennent. Alors, sur le vocabulaire et la syntaxe des consignes, je crois qu'il faut distinguer ce qui est utilement complexe et ce qui est inutilement compliqué. C'est-à-dire, lorsque on emploie des mots techniques qu'on a appris en classe, aussi bien en maths qu'en français, n'importe quelle autre matière, dans la consigne, c'est normal que ce soit un peu difficile, mais si on se réfère à ce qu'on a fait en classe, il y a l'aller-retour entre la consigne et la leçon, c'est essentiel. Par contre, des complications, par exemple, je ne sais pas, si on utilise, au lieu de dire remplacer tel mot par tel autre, on dit substituer à tel mot, tel autre, puisqu'on rencontre des trucs comme ça, qui sont inutiles. Il n'y a aucune raison des propositions relatives avec don, par exemple, qui sont une forme syntaxique très compliquée en français. Donc, on peut simplifier tout ce qui n'est pas vraiment utile. Même le vocabulaire, c'est pareil. Il y a des mots de vocabulaire inutilement compliqués, puis d'autres qui sont vraiment techniques, qui sont d'ailleurs, à cet égard, je pense qu'il faudrait beaucoup plus mettre l'accent, alors ça va au-delà des consignes, mais mettre l'accent sur les mots abstraits. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas suffisamment à l'école, on ne met pas assez le paquet sur les mots abstraits, parce que c'est là que se posent les difficultés. Je vois des élèves qui vont apprendre des listes de vocabulaire de mots que parfois je ne connais même pas. Hein, je veux dire, sur bien de vocabulaire de, je sais pas, des intempéries, par exemple. Je voyais l'autre jour avec des mots très très compliqués, le zéphyr, par exemple, pour parler du vent. Voilà. Par contre, ils n'apprennent pas suffisamment. Enfin, on peut pas tout. Il faut mettre des priorités. Les priorités, c'est les mots abstraits, je sais pas, les mots comme démocratie, démographie, voilà, des mots comme ça, ou en maths, les notions. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qui sont utiles pour les consignes. Alors, mais je crois que pour les consignes, moi, j'ai fait énormément de formations d'enseignants de tout niveau et de tout public. Et je crois que bon, les livres que j'ai publiés aussi ont été pas mal diffusés. C'est-à-dire l'idée vraiment de travailler cette question tout le temps, c'est pas simple, c'est pas évident, et il faut apprendre aux élèves à avoir du recul par rapport aux consignes, en particulier de pas se lancer tout de suite dans l'exécution, de réfléchir. Voilà, ça, c'est, alors je ne peux pas développer parce que ça, mais ça d'exercer par exemple, et je termine juste sur ce point. C'est faire inventer des consignes par les élèves. C'est la meilleure façon d'apprendre à les lire, c'est d'en inventer. Moi, j'ai pratiqué énormément ça. Sur un texte, on parlait de la compréhension d'un texte. Demander à des élèves d'inventer deux questions intéressantes sur ce texte, c'est très formateur, parce qu'ils se mettent à la place du prof, c'est valorisant. Et il faut qu'ils inventent des questions qui sont intéressantes, parce qu'il y a des questions qui ne sont pas intéressantes du tout. Par contre, et par exemple, on leur apprend à inventer des questions. Certaines commencent par comment, d'autres par pourquoi, d'autres par qu'est-ce que, Voilà. Et ça, ça entraîne les élèves, en écrivant, à lire. Et je crois beaucoup à l'interaction entre lire et écrire. La meilleure façon d'apprendre à lire, c'est aussi d'écrire.
Mais il y a aussi la peur des élèves de dire à un professeur, j'ai pas compris. Oui. Moi, je sais bien que quand je vais dans les collèges, on fait des petits jeux, des exercices, et souvent, je leur dis, parmi vous, combien n'ont pas compris ce que je viens de dire ? Mais c'est terrible de
où
voir
j'ai,
que...
j'ai pas compris la consigne.
Sur une classe de 30, il y a au moins 10 mains qui se lèvent, quoi. Mm-hmm. Et pourtant, pour moi, ça me paraît relativement simple. C'est... Mais voilà. Et je suis sûr que dans les cours, certains élèves n'osent pas dire à leur professeur, j'ai pas compris ce que vous demandez.
Oui, tout à fait. Mais de toute façon, la meilleure façon, c'est pas forcément de dire, est-ce que vous avez compris ? Parce qu'en général, on va pas avoir de réponse négative. Par contre, peut-être demander d'écrire une chose qu'ils n'ont pas compris, par exemple, parce qu'ils n'osent pas forcément le dire à l'oral. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un travail de groupe où les élèves, entre eux, se redisent la consigne pour voir s'ils ont compris entre eux, ce qui n'est pas plus mal non plus.
Vous parlez souvent, c'est d'enseigner la lecture des consignes, justement. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, la lecture au sens de compréhension, parce qu'après il y a les consignes orales qui sont aussi importantes, mais si on prend seulement les consignes écrites, oui, c'est s'entraîner, avoir des méthodes, se dire de quoi j'ai, par exemple, de dire de quoi j'ai besoin, combien de temps je pense mettre pour faire cette consigne, quel résultat je vais avoir, parce qu'en fait dans une consigne ça met en jeu le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire le passé, c'est-à-dire ce qu'on a fait avant qui permet de faire le travail. Le présent, c'est-à-dire essayer de reformuler, de redire la consigne, puis le futur, qui est le résultat attendu. Et donc, il faut conjuguer ces trois temporalités. Et dans la reformulation, moi, j'entraînais beaucoup les élèves aussi à savoir redire la consigne sans la regarder. Mm-hmm. Souvent, on leur dit, relis trois fois la consigne, ça sert à rien. Par contre, si on leur dit, tu caches la consigne, essaye de la redire. Si tu n'y arrives pas, tu regardes à nouveau, puis tu recaches. Et je disais ça aussi comme conseil aux parents de faire ça. Et ça a de l'efficacité. Encore une fois, les efficacités, elles sont jamais absolues, il n'y a jamais de remède absolu, etc. Mais ça, si les élèves s'entraînent à faire ça, je crois qu'ils sont...
Et justement, dans vos formations que vous donnez aux enseignants, est-ce que vous insistez justement sur la lecture des consignes ?
Oui, tout à fait, oui, oui. Dans deux directions, soit avec des profs de français... qui doivent intégrer ça, et en particulier intégrer des formes comme l'impératif, par exemple, qui est une consigne. Bon, c'est une manière aussi d'apprendre un certain nombre de formes de verbes, etc. Mais surtout, de façon transversale. Alors, pour les professeurs des écoles, évidemment, ils sont toujours dans la transversale, mais on travaille les consignes aussi bien en maths. Par exemple, en maths, on a l'idée d'inventer des consignes. C'est quelque chose qui s'est quand même pas mal répandu, et ça, c'est positif. On demande à des élèves d'inventer des problèmes, et ça, c'est positif. Et ça ne se fait pas tellement dans les autres matières. Donc, l'idée aussi, c'est que quand on travaille à plusieurs matières, chacun apporte quelque chose qu'il a l'habitude de faire, et c'est enrichissant. Donc, mais ce que je veux dire aussi, c'est dans les formations, ce qui est important, c'est de mettre les professeurs aussi en situation, d'inventer des consignes, par exemple, et de les faire analyser par d'autres collègues du stage. Et par exemple, quand on leur présente des consignes qui ont été données, par exemple, aux évaluations nationales, souvent, ils critiquent beaucoup, parce qu'ils disent, voilà, ça ne va pas, il aurait fallu faire comme ça. Ils disent, bon, d'accord, c'est intéressant de critiquer. Maintenant, passer à l'acte, quoi. C'est-à-dire maintenant, inventer des consignes. Et ils s'aperçoivent que c'est difficile. C'est très difficile de bien inventer des bonnes consignes, qui soient ni trop faciles, ni trop difficiles, qui soient aidantes, mais pas trop aidantes, voilà. C'est tout un art, et on l'apprend peut-être pas suffisamment. Ça s'apprend qu'en faisant, quoi.
Nous, on le remarque aussi. Est-ce qu'il n'y a aussi pas une question de précipitation et de concentration dans la lecture des consignes ?
Oui.
Parce que nous, on le voit en aquarelle. Hein. Moi, je le vois régulièrement en aquarelle. Oui. Et suivant certains. Et c'est ça qui cause aussi quelques problèmes de décalage de niveau. Moi, je le vois. Et puis, entre ceux qui sont en dédoublement et d'autres, puisqu'on a des dédoublements et des classes complètes. Oui. Et moi, je vois dans les classes, il y en a certains qui... puisque nous, moi, on détaille bien les aquarelles, ce qu'on fait. Moi, je détaille, comme quand on dessine un oiseau, je détaille complètement l'oiseau au point de vue dessin et au point de vue consigne. Mmh. Et ça, on les met au tableau. Et puis, mais il y en a une partie, en général, dans plusieurs classes, hein, il y en a une partie qui qui vont beaucoup trop vite et qui ne lisent pas les consignes, qui ne regardent même pas ce qu'il y a au tableau, qui ne lisent pas, mais qui sont déjà prêts à partir à faire le travail. Mais qui ne font pas, qui ne visualisent pas et qui ne lisent pas les consignes. Il y en a d'autres qui sont dans la concentration. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a quand même aussi un gros manque de concentration et de relâchement par rapport. On est ils sont toujours dans le stress et ils sont pas dans le relâchement quand on leur propose quelque chose.
Voilà, ça a été très bien en aquarelle, c'est lorsque je n'ai pas dit ce que j'allais faire. C'est-à-dire, je leur faisais petit à petit. Et donc là, bah, du coup, ils écoutaient et ils n'avançaient pas quand ils avaient terminé.
C'est ça le problème. Et moi, je vois qu'il y a une partie. Alors la classe, elle est toujours dans certaines classes, notamment là, dans les CE2 qu'on a, il y a une partie de la classe qui est coupée en deux. Il y a une partie qui suivent très bien. Moi, là, j'en détaille. Il y a une dizaine qui marchent très bien. Qui ont déjà pris en compte le fait de la concentration, d'attendre ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur montre au tableau. Donc, qui regardent, qui visualisent.
Ce sont surtout les filles.
C'est vrai. Oui. Et il y en a quelques-unes qui vraiment ont très bien pris. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres matières qui sont en train de faire, mais peut-être que c'est la même chose. Mais en aquarelle, elles attendent, elles posent les choses, elles regardent, elles écoutent. Et après, quand on leur dit, bah là, vous pouvez commencer, elles commencent. Mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils sont trop dans la rapidité et dans le stress, en disant ben on a à peine vu les consignes qu'on va déjà essayer de faire quelque chose.
Ah, tu sais, si tu veux avoir un peu de silence dans une classe, tu dis est-ce qu'il y a un volontaire pour venir ? Et là, pendant 30 secondes, tu as un silence total dans la classe, tu es tranquille.
Mais ce problème de. Ce problème de concentration, de stress et de rapidité, on le voit partout. Hein. Mais nous, on le voit aussi au jardin.
Même
au
chez
jardin,
les parents.
Au jardin, on le voit, nous. Hein. C'est pour ça qu'on a mis des petites. On en parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a mis des petites choses, des petits points d'accueil pour dire quand ils arrivent au jardin, on se met un temps donné. Et là, c'est peut-être cette chose-là aussi à voir.
Donc, oui, tout à fait. Mais, parler des formations, je mets en rapport, bien sûr, le travail sur les consignes et le travail sur l'attention.
On voudrait avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Hein. Alors, on fait référence à un appauvrissement du vocabulaire et même des synonymes. Hein. Et pourtant, à la lecture d'ouvrages des siècles passés, certains mots ont disparu, mais remplacés par de nouveaux. Donc, on pense plus que c'est l'évolution d'une langue, mais pas forcément un affaiblissement du français. La lecture est-elle la meilleure solution pour obtenir un vocabulaire plus dense ? Est-il important de mettre des livres dans les mains des enfants ? Et existe-t-il peut-être d'autres moyens, justement, pour motiver les enfants ?
Moi, je crois beaucoup à la lecture, bien sûr. Hein. Les livres, ça reste essentiel. Il ne faut pas les sacraliser, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les médiathèques qui sont intéressantes. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas renoncer du tout à travailler sur les livres. Moi, je travaillais énormément sur des livres. Alors, en alternant un peu des livres jeunesse très accessibles et puis d'autres plus difficiles. Mais quand c'est plus difficile, il faut trouver aussi des modes d'accès. Par exemple, il y a des versions qui sont parfois plus accessibles, mais sans pour autant renoncer à la magie des mots, le vocabulaire. Donc c'est pas tout l'un ou tout l'autre, quoi. C'est-à-dire, j'ai connu des professeurs qui renonçaient finalement trop, trop vite à faire étudier des livres, mais si on trouve des façons d'approcher ces livres en faisant aussi écrire, je pense, par rapport à, enfin, pas pour les plus petits, mais bien dessiner aussi, à partir des pages qu'on a lues, faire un dessin, ça peut aussi aider. Il faut trouver des modes d'accroche. Mais en même temps que ça, il faut montrer que l'écrit, il est présent partout. Il n'a jamais été aussi présent qu'écrit, en fait, parce que les messages sur le téléphone, c'est énorme, quoi, comme production. Et donc, il faut montrer que la lecture se situe dans un ensemble de... Enfin, les textes sous forme de livres sont un ensemble, donc il faut travailler en même temps sur les journaux, les magazines, sur la bande dessinée... Et aussi sur des écrits les plus quotidiens, qui montrer qu'ils sont entourés d'écrits. En utilisation, il y a plein d'écrits partout. L'écrit ne recule pas du tout. Par contre, effectivement, le problème, c'est la déperdition de la lecture dans les petites classes, ça va, et plus on va, plus c'est difficile. Mmh. Donc il faut aussi trouver des formes collectives, c'est-à-dire faire parler de... Par exemple, alors ça je ne l'ai pas vraiment fait, parce que c'était pas encore développé à ce moment-là, les facilités techniques, mais faire des petites vidéos, des pastilles vidéo à partir de... Par exemple, au lieu de faire une fiche de lecture classique, de demander à des élèves de parler d'un livre deux minutes devant une caméra chez eux, et ça les motive bien. Et voilà,
je vais vous poser juste une dernière question avant de passer des interviews. La pause musicale, on me dit. Alors, en CP, le temps effectif pour l'apprentissage de la lecture est-il suffisant? C'est une question que je me pose. Et le décodage de la lecture doit passer par l'écriture, apprendre à faire, à dessiner les lettres. Parfois, des élèves écrivent à l'envers ce que nous appelons l'effet miroir. Comment perfectionner l'écriture sans démotiver l'élève?
Alors, bon, moi, je ne suis pas hyper compétent sur la question parce que je n'ai pas travaillé c'est pour mes apprentissages, mais ce qu'on peut dire, oui, il y a des élèves. Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas isoler l'écriture de la compréhension. Quoi. Si c'est purement mécanique, je pense que ça mène à rien. Il faut en même temps travailler la compréhension, que l'élève voit du sens aussi à
ce qu'il fait.
Bizarre qui est d'écrire, quoi. Y compris partir de formes. On sait bien, il y a des enfants qui ont. Tant qu'ils n'ont pas compris le sens aussi de ce que ça voulait dire écrire, il y en a qui très tôt ils ont compris. Mm-hmm. Puis d'autres, ces écarts qui sont. Et donc, par exemple, l'entraide entre enfants aussi. Mais bon, après, il y a tous les aspects techniques sur lesquels je n'ai pas
forcément de
compétences particulières.
Ok, bon, on va passer la pause musicale.
D'accord.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Vu que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs,
Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Nous venons d'écouter Renaud, c'est quand qu'on va où? Notre thème du jour, comment améliorer les apprentissages du français et des maths en primaire? Pour cela, nous avons au téléphone Jean-Michel Zakharchouk, retraité, professeur de lettres, rédacteur au cahier pédagogique au téléphone. Jackie, un petit billet d'humeur?
Oui, un petit billet d'humeur. Alors, on voit que donc ce socle de français, maths, lecture, c'est l'éternel socle de compétences qui nous revient, hein, donc à tous les niveaux, hein, parce qu'on le voit au niveau de l'école, mais on le voit aussi. Donc dans les différentes enquêtes internationales, que ce soit PISA et ou autres, on voit que le bilan il stagne toujours autant. Hein. Et ce bilan masque aussi des disparités sociales et géographiques, ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'il y a aussi, c'est que la problématique au niveau national, on voit aussi, on le dit à la base au niveau de l'école, mais on voit aussi qu'en haut, quand on finit, nos chercheurs disparaissent ou vendent.
Ils vont où?
À l'étranger. Ils vont à l'étranger. Hein, parce qu'on voit, nos quelques chercheurs, parce qu'on a quand même quelques scientifiques qui sont régulièrement récompensés dans les différentes fondations et autres. Donc ils disparaissent à l'étranger, donc on les garde plus chez nous. Et on voit aussi que la langue française, qui était une langue qui était reconnue internationalement, elle disparaît aussi dans le monde. Et en plus, on voit que la francophonie est en voie de disparition dans beaucoup d'endroits. Ça, c'était des choses quand même où on avait vraiment des socles. Donc peut-être que ce socle de compétences qu'on voit dans les écoles, nous adultes et au niveau national, on pourrait peut-être y réfléchir et voir ce que nous, on peut faire aussi de ce socle de compétences.
C'est vrai que tu as raison au niveau de la francophonie. Hein, on le voit dans les pays africains, par exemple. Avant, la première langue, c'était souvent le français. Et maintenant, c'est remplacé par l'anglais.
Et le français, c'était une langue internationale au point de vue diplomatique.
Diplomatique.
Ça n'existe plus non plus.
Non plus, c'est vrai. Alors, on va parler un petit peu des maths. Ça, c'était ma bête noire. Alors, devenir bon en maths est différent du français. On nous dit souvent qu'il faut apprendre, mais surtout comprendre. Et pour devenir bon en maths, on nous répète qu'il faut faire plusieurs exercices afin de comprendre la méthode pour trouver le bon résultat. Mais lorsque la méthode n'est pas comprise, je pense qu'il faut que le prof improvise. Et dans ce cas-là, on fait quoi exactement? Et donc, on va peut-être écouter, avant d'en parler, l'interview que tu as faite, Gérard. Donc, tu as interviewé des élèves de
5e et 6e.
Et donc, tu as posé des questions et sur les difficultés en français.
Il y a même une professeure qui parle un petit peu, qui nous donne son avis.
Donc là, on est parti.
Alors, bonjour. Bonjour. Je suis aujourd'hui dans un collège où nous avons des difficultés avec les professeurs sur le français et les mathématiques. Donc, j'ai devant moi 3 élèves qui vont répondre à quelques questions, dont la suivante. Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés en primaire sur les mathématiques et le français?
Les mathématiques, non, mais le français, oui.
Et pourquoi?
Parce que les mathématiques, c'est facile, mais le français, j'aime pas.
Et pourquoi tu n'aimes pas?
Parce que pour moi, c'est difficile, comme j'ai des difficultés.
Moi, ça a toujours bien été. Les mathématiques, ça allait, et puis le français, un peu plus de difficultés, mais ça va.
Mais pourquoi en français, vous avez des difficultés?
C'est parce qu'il y a plus d'oral et en primaire, on est moins préparé aux oraux.
Tu trouves qu'en primaire, il n'y a pas assez d'oraux?
Oui, on n'est pas assez préparé, je trouve.
En maths, ça a été, mais en français aussi, plus de difficultés.
Et maintenant, vous êtes au collège en 6e, maintenant en 5e. Est-ce que vous pensez qu'en arrivant au collège, vous n'étiez pas assez préparé en mathématiques et français?
Bah moi, en français, bah, j'avais un peu peur parce que j'y arrivais pas, mais en maths, non.
Tu n'arrivais pas à quoi ?
À tout.
C'est-à-dire ?
Bah, la grammaire et la conjugaison.
Tu penses que c'est au primaire qui te manque
sur le vocabulaire ?
Moi, ça allait parce que personnellement, en CM1, CM2, j'ai eu deux profs qui ont relevé le niveau des trois autres années. Donc, voilà.
Moi, ça a été, mais plus sur l'oral, qui était plutôt dur.
Plutôt dur sur l'oral. Et pourquoi sur l'oral ?
Je stressais.
Bon, maintenant, je vais m'adresser aux professeurs. Comment vous ressentez les difficultés qu'ils ont en français ?
Alors, en français, ils ont beaucoup de difficultés dans les accords, en grammaire. En orthographe, ça va à peu près. Je pense qu'ils sont bien préparés à l'école primaire. Enfin, ils connaissent leur orthographe, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment les accords qui leur posent problème. Et certains ont de grosses difficultés en syntaxe. Enfin, ils ne savent pas écrire une phrase correcte. Et ça, c'est vraiment un gros problème.
Est-ce que d'après vous, ça ne vient pas d'un problème de lecture ?
Alors, ça peut venir d'un problème de lecture. C'est sûr que s'ils n'ont pas d'habitude de lecture régulière, c'est compliqué. Et certains aussi ont des soucis. En fait, ils sont dyslexiques ou dysorthographiques ou dysgraphiques. Ce qui fait qu'on a dans des classes, en moyenne, 5-6 élèves par classe qui ont des aménagements, donc pour qui c'est vraiment compliqué.
Donc vous pensez, comme beaucoup, que dans le collège, il faudrait revoir comment la formation des classes par rapport aux problèmes qu'ont certains élèves ?
Alors en fait, ce qui pose problème, nous, c'est que par exemple, en 5e, on a une classe de 30, enfin, on a 4 classes qui sont à 30, et une, je crois, qui est à 31. Donc c'est très difficile de différencier, en fait. Et quand on le fait, on n'est pas au top, quoi.
Oui. Je reviens à mes élèves. Est-ce que tu lis beaucoup ?
Régulièrement.
Qu'est-ce que tu lis ?
Plus des mangas ou des bandes dessinées.
Ouais.
Assez souvent. Surtout le week-end.
Mais quoi ?
Surtout des mangas.
Moi, je lis beaucoup et tous les jours, et je lis des romans et des mangas.
Donc, pas de romans ?
Non.
Et pourquoi ?
J'aime pas trop les romans.
Est-ce que tu t'y étais vraiment intéressée ?
Oui, du coup, cette année, un peu en collège, du coup.
Essayer de lire un peu Jules Verne, ça t'intéresserait
pas ? Non.
Non, pas du tout. Toi non plus ?
Non plus.
Donc, je vais vous poser quelques petites questions sur votre passage de l'école primaire à la 6e. As-tu déjà rencontré des difficultés en français et en mathématiques ?
Pas forcément, mais en maths, c'est beaucoup plus précis qu'en primaire. Enfin, avec les mètres carrés, c'est les calculs, et c'est avec les divisions. Et le français, c'est le passé simple qui est un peu dur.
Tu te sens bien formée de la primaire pour arriver en 6e ?
Oui. Non, pas en français, mais en maths, oui. Les divisions, tout ce qui est calcul. J'ai rencontré ces difficultés et voilà.
Et en français, qu'est-ce qui te gêne ?
Qu'on écrit beaucoup.
Et le vocabulaire, ça te gêne beaucoup ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
La conjugaison aussi ?
Non, ça
non.
va.
Alors moi, oui, j'avais rencontré des difficultés en maths et en français, surtout en CM2. Mais
Quelles difficultés ?
Surtout dans la conjugaison de tout ce qui est verbe et tout. Et en maths, tout ce qui est calcul, tout ce qui est division surtout. Et maintenant, j'ai appris à m'améliorer. J'apprends à persévérer.
Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un passage assez fort entre le primaire et la 6e ?
Oui. D'un coup, c'est plus le même niveau.
C'est pas les mêmes professeurs, c'est ça ?
Aussi.
Et toi ?
En primaire, pour les mathématiques, ça allait. Mais en ce moment, c'est comme Gonaël a dit, c'est beaucoup plus précis. C'est, on apprend beaucoup plus de choses. Du coup, c'est plus compliqué.
Français ?
Le français, c'est vrai qu'on écrit beaucoup, beaucoup. Et c'est beaucoup plus dur. Le passé simple, je l'avais déjà appris un petit peu en primaire. Du coup, j'ai quelques connaissances pour le passé simple en 6e.
Donc, on me dit que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe parce que tu ne lis pas assez.
C'est pas forcément que je lis pas assez, mais que je suis pas assez concentrée.
Tu penses que l'orthographe vient du fait que tu ne concentres pas ?
Oui.
Et toi ? Tu lis beaucoup ?
Jamais.
Jamais ?
Oui.
T'espères faire beaucoup d'efforts en orthographe si tu ne lis pas ?
Oui, mais vu que je suis en fluence, j'apprends à lire.
Ah ouais, parce que je ne sais pas lire.
Et toi, est-ce que tu lis beaucoup ?
Oui, je lis souvent des mangas. à peu près deux fois tous les week-ends à peu près.
Et tu ne lis pas de petits romans?
Je lis Harry Potter.
Oui. Non. Et toi?
Ouais, je lis souvent tous les deux jours parce que ma mère, elle m'oblige. Mais sinon, oui, je dis comme Maxime, tout le temps quasi des mangas. Je lis aussi des séries policières. Mais
Quel genre de séries policières?
Où il y a un meurtre, on doit résolver des énigmes.
Et Jules Verne, ça vous tente pas?
Non, pas du tout.
C'est romantique.
Moi, je connais que le collège de Jules Verne.
En primaire, moi, j'ai appris Jules Verne.
Écoutez, je vous remercie beaucoup.
De rien.
Je vous laisse tranquille.
Voilà, donc ça, c'était des classes de 6e et 5e qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Hein. Et c'était intéressant aussi ce que disait la prof, en fin de compte. Effectivement, au niveau de l'orthographe, ils se débrouillaient pas mal. Alors là, c'est même étonnant. Hein. Mais la problématique, on le voit bien, ce sont les 5-6 élèves qui ont des aménagements dans une classe, ce qui est énorme. Et des classes surchargées, 30 élèves, c'est
beaucoup. Il y avait même une classe de 32. Hein.
32, c'est énorme. Hein. Énorme. La lecture, alors là, moi, j'ai vu, c'est pareil, un enfant, là, ce week-end, je lui ai posé la question, il m'a dit, ah non, moi, je lis que des mangas. Alors, il avait l'air d'être un petit peu triste parce que je lui avais ramené un petit roman, une histoire qui se passait en Bretagne et qui parlait des oiseaux, donc je sais pas s'il va bien aimer, c'était sur l'environnement, mais on verra bien. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, Jean-Michel, écouter tous ces enfants?
Il y aurait énormément de choses à dire, mais ce qui m'a frappé quand même, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, que les élèves réduisent le français à la conjugaison de l'orthographe.
Oui, enfin, voilà.
C'est l'intervieweur qui doit évoquer la lecture, même la prof, elle n'évoque pas ça d'abord. Moi, ça me sidère, quoi, parce que le français, c'est avant tout écrire et lire. Les autres, c'est des outils au service de ça, c'est pas des fins en soi. Et je dirais aussi qu'en maths, les calculs, c'est pas une fin en soi. Les maths, c'est pas fait pour faire du calcul. Les calculs, en plus, aujourd'hui, on peut les faire
tout à fait.
Sur une machine. Mais les maths, c'est tout à fait autre chose. C'est un type de raisonnement. Et ça apparaît pas.
Alors, bien sûr, c'est vrai que d'apprendre la table des multiplications, ça permet de faire travailler un petit peu la mémoire. Mais c'est vrai, je trouve qu'on perd beaucoup de temps à ça, alors qu'on pourrait peut-être prendre autre chose pour le faire.
Mais là, il y a un petit... Je sais pas, j'ai dû couper avant, mais parce qu'à un moment, ils m'ont dit comme ça, « Oui, mais lire un livre, il y a trop de pages, mais il n'y a pas d'images. »
Ah, voilà, c'est ça. Oui. C'est fou, hein. c'est vraiment le manga et le BD.
Moi, ce
qui est étonnant, les profs de français ont quand même le choix de prendre des romans ou des livres, effectivement, pour les analyser en classe, pour les étudier en classe. Et moi, ce qui me frappe assez, que ce soit aussi tout le long du collège, hein, je trouve que maintenant, les livres sont de plus en plus simples. Ou alors, on va prendre des livres comme le fameux livre Harry Potter pour faire plaisir aux jeunes.
Ceci dit, Harry Potter, c'est d'un niveau tout à fait intéressant.
Intéressant.
Oui, je pense que c'est que si lisez Harry Potter, c'est bien. Quoi.
Il faut s'en contenter, voilà.
Non, mais je veux dire, en plus, Harry Potter, c'est plein d'ouvertures sur d'autres textes, sur la mythologie, sur les contes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut tout faire pour rendre un peu plus aimable, et donc attirant. Quand on donne, moi je vois des élèves, on leur donne 10 pages à lire. Sans aucune autre consigne, c'est ceux qui sont pas bons lecteurs, ils vont au mieux survoler les lignes et c'est tout. Tandis que si on leur donne une activité, par exemple, au bout de 3 pages, ils lisent deux choses qu'ils ont retenues, ou faire un dessin qui représente ces pages-là, etc. Enfin, il y a plein de techniques qui permettent. Je dis pas pour tout, il y en a certains, ils resteront réfractaires, mais moi je pense qu'avec on a travaillé sur beaucoup de projets autour de livres, et il y a des élèves des anciens élèves que je revois qui se souviennent de choses qu'on a faites, des affiches, des...
Nous on les avait fait.
Avec les techniques d'aujourd'hui, un peu. Pardon, je vous ai coupé.
Oui, non, non, mais nous, on les avait fait travailler il y a quelques années sur la BD, donc avec l'illustration. Et là, il fallait faire des phrases, ou alors il fallait, dans les bulles, faire parler les personnages. Ça avait été assez intéressant quand même.
Est-ce qu'il ne faut pas repenser que, justement, comment leur faire amener la lecture ? Peut-être par des animations, des choses complémentaires à un bouquin. Là, il y a des petites choses. Moi, en aquarelle, là, on essaye de faire des choses pour leur amener. À chaque fois, je leur fais une petite chose. Je réfléchis à leur amener avec l'aquarelle le dessin, une petite chose à côté, qu'ils réfléchissent par rapport au dessin aussi. Donc, on a fait sur des fables simples. Mais en même temps, on leur a fait lire. J'ai pris des fables très raccourcies. Hein. Mais en même temps, ça amène quelque chose, en même temps que ça fait réfléchir. Ouais. Alors peut-être qu'avec la lecture, on pourrait faire ça, faire des animations, quelque chose à côté d'un livre.
Voilà, on parlait des fables. Moi, je crois beaucoup. Il ne faut surtout pas renoncer à faire La Fontaine. Parce que
c'est fini. Ouais.
Mais il y a des façons de faire si on le fait de façon ennuyeuse. Par contre, moi, j'ai fait inventer des fables en lien avec le prof de SVT, parce qu'on prenait des animaux et on voyait l'histoire des migrations, et tout comme ça, et on invente des fables, y compris en faisant de la versification et tout, et franchement, il y a des élèves qui ont accroché énormément à ça, quoi.
Mais j'aurais posé une petite question supplémentaire, j'aurais demandé combien d'entre vous ont déjà utilisé un dictionnaire. Et là, je peux vous garantir que les yeux se sont ouverts en grand, parce que je suis certain
Qu'est-ce qu'un dictionnaire ? T'as pas dit dico
J'ai pas dit dico, j'ai dit dictionnaire. J'ai l'impression que j'aurais posé une question. Hein, ils se regardaient tous, d'un air de dire...
Encyclopédie non plus Non, ils ne travaillent plus du tout avec le dictionnaire, ce qui est un petit peu dommage.
Alors, demandant, mais s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous n'essayez pas de le chercher, vous ne demandez pas... Ben non, je passe dessus, puis c'est pas grave.
Là aussi, le dictionnaire, il faut trouver le bon usage, parce qu'il y a les dictionnaires qui sont inadaptés, il y a les dictionnaires, par contre, qui sont adaptés au collège... Et il ne s'agit pas de recopier les définitions, il s'agit de voir à quel moment c'est utile, et puis utiliser à la fois le dictionnaire papier, mais aussi le numérique. Parce que
c'est l'usage aujourd'hui. Pour revenir un petit peu aux mathématiques, on dit les mathématiques, il faut être logique pour pouvoir les faire. Alors c'est vrai qu'on peut favoriser ça peut-être avec les jeux de société. Ça favorise la logique et c'est peut-être pas mal de...
Les jeux, par exemple, c'est une voie d'accès tout à fait intéressante. Mais je pense que là aussi... il faut que les élèves voient du sens aux maths et la présence, enfin, leur faire comprendre aussi que toute la technologie qu'ils utilisent tous les jours, elle n'existerait pas sans les maths, quoi. Et je me rappelle une élève, j'ai dit, mais téléphone portable sans les maths, il n'existerait pas. Elle était étonnée que je dise ça. Elle ne comprenait pas, elle ne voyait pas le rapport, quoi. Les maths, c'était tout à fait un domaine purement scolaire, alors que les maths, elles sont présentes partout. Donc, c'est arrivé à montrer cette présence des maths. Et je voudrais signaler... Nous, au cahier pédagogique, on a fait un numéro qui s'appelle « Les maths pour tous ». C'est coordonné par quelqu'un qui s'appelle Claire Lomé, L-O-2-M-E, qui a fait notamment, je conseille de voir son blog qui s'appelle, c'est un jeu de mots, Pierre Carré. Alors, ça fait aussi Pierre Carré. Voilà. Et elle montre comment on peut utiliser, comment on peut amener les élèves, et aussi formatrices, profs de collège, mais aussi des gens du premier degré, comment on peut montrer la présence des maths parce qu'on parlait des aquarelles, dans la peinture, dans l'art, mais aussi dans la physique, des fractales, par exemple, des choses comme ça, et dans la cuisine aussi, d'ailleurs.
Voilà, oui, pour faire un gâteau, effectivement, il faut peser, oui.
Voilà, mais à la fois des côtés très pratiques et puis des côtés très artistiques, notamment la peinture moderne utilise beaucoup les formes mathématiques et tout. Donc je dirais aussi le côté maths citoyenne, c'est-à-dire les maths qui servent aussi à comprendre les statistiques, les graphiques qui nous entourent et qui font que même les journalistes disent n'importe quoi. Quand il y a une progression des prix 3%, l'année que ça rebaisse 3%, ça ne revient pas à zéro, parce que bon, etc. Mais il faudrait aussi qu'on arrête aussi de dire « Ah oui, moi je suis nul en maths », etc., ce qui ne veut rien dire non plus, quoi. Il faut valoriser les maths et pas en faire quelque chose de rébarbatif et de, Moi j'aimais beaucoup les maths, et pourtant je n'ai pas fait une fois de maths. Il y a la fête du travaux commun français maths, d'ailleurs très très passionnant à cet égard. Mais en tout cas, quand on dit les maths sont rigoureuses, mais les maths c'est aussi... quand on entend les chercheurs parler des mathématiques, c'est une passion aussi. Et résoudre des problèmes, et notamment les énigmes, je ne veux pas les jeux de société, mais aussi tout le côté énigme aussi qui est une façon d'aborder les maths, mais aussi le côté un peu magique, quoi. Le fait des nombres premiers, des choses comme ça, il y a un côté un peu magique, et d'ailleurs on peut remonter aussi dans l'histoire des maths, c'est intéressant aussi, montrer comment l'histoire et la géographie, c'est-à-dire aussi il y a des façons de compter différentes dans le monde, à quel moment sont nés les chiffres, tout ça, c'est une façon aussi plus motivante sans doute d'apprendre les maths, même si à certains moments il faut apprendre par cœur.
Il faut apprendre surtout, c'est le vocabulaire des maths, hein. C'est vrai que là, si on ne comprend pas dividende ou autre, ou soustraire,
aussi,
voilà, c'est ça.
Le vocabulaire des maths, c'est aussi montrer que souvent c'est pour simplifier qu'on emploie le vocabulaire. Au lieu de dire deux droites qui se rejoignent pas, on dit des parallèles, en un seul mot, on a la notion. Et mm-hmm. pas montrer qu'on n'est pas là pour embêter. Quand il y a un vocabulaire technique, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour mm-hmm. simplifier. En fait. C'est ça. Et là aussi, il y a un travail à faire.
Alors là, on voit que les élèves, lors de l'interview, ils n'étaient pas trop embêtés avec les maths, en fin de compte, seulement pour les divisions, a priori. Et pourtant, je voulais dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés pour effectuer une multiplication. A priori, les divisions, ils ont énormément de problèmes. Et même pour le calcul mental, les Chinois utilisent un boulier et les Japonais appellent ça un soroban ou soroban. Hein. Et là, on va écouter un petit peu une explication sur comment utiliser ces petits bouliers.
4 plus 5 Moins 6.
Oula, mais ça va vite. Pourtant, ces enfants n'en sont qu'à leur deuxième séance de calcul mental. Ici, la méthode nécessite un boulier. Et à tous les coups, ou presque, les participants ont la solution.
Résultat ? Très bien, bravo.
Des fois, je me perds un peu avec le boulier.
Il part un peu trop vite, le prof ?
Des fois, il dit qu'il va pas vite, mais il va quand même un petit peu vite pour moi.
Depuis 2016, dans le quartier Chambert, Zahra et Abdelaziz Faez partagent leur passion pour les opérations de tête. Cette gymnastique développe la communication entre les deux hémisphères du cerveau et ses vertus vont au-delà des maths.
Lina,
21.
Bravo. C'est une généralité de plusieurs bienfaits pour le cerveau. C'est concentration, meilleure mémoire auditive parce qu'il faut qu'il entende les chiffres plus vite. Il faut qu'il transforme en boule. Meilleure mémoire visuelle, comme on a vu sur la télé, il y a les chiffres hein, qui passent plus vite. Ça veut dire aussi à la mémoire visuelle.
5. Au départ, je croyais que c'était une torture, les maths, mais en fait, c'était carrément un jeu. Oui.
Et lorsque les enfants progressent, ils remplacent l'action sur le boulier par une gestuelle précise.
9. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est à ça que sert le geste. Maintenant, en fait, au début, comme on travaille avec le boulier, après, on a le boulier qui s'est imprimé dans notre cerveau puisqu'on l'a plusieurs fois regardé. Et puis après, quand on fait les gestes, c'est comme si on touchait le boulier, mais le boulier virtuel.
Et c'est parti.
Le chêne et le roseau, le chêne un jour, Dieu roseau.
En s'entraînant 15 minutes par jour, Amine et Yacine sont capables de réciter une fable de La Fontaine tout en additionnant 25 chiffres qui défilent à toute vitesse.
Tout est à qui long, tout me semble Zéphir.
143,
oui.
Vérification.
Oui.
Alors cette méthode, moi j'ai regardé la vidéo, j'ai trouvé ça fantastique. Alors la question que je me pose, faut-il généraliser l'utilisation de ces bouliers dans les écoles primaires? Et quand on voit ces jeunes qui arrivent à réciter une poésie et puis à calculer en même temps des chiffres qui défilent, moi je suis bien incapable de le faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'apprendre?
Là, j'ai du mal à avoir un avis sur cette application précise parce que je ne connais pas, mais ce que je remarque, c'est deux choses. D'une part, l'idée du défi. Je pense que beaucoup d'élèves apprennent aussi si on leur lance des défis, mais il faut aussi développer la confiance en soi et se dire je vais y arriver. Donc voilà, c'est, on retrouve ça dans les jeux vidéo, par exemple, oui. L'idée du défi. Donc travailler sur cette dimension défi est importante.
Oui, jeu de stratégie, puis, voilà.
Oui, alors, les stratégies, mais en même temps aussi, parce que tout à l'heure, on parlait dans les consignes, le fait de réfléchir avant de faire. Tantôt, il faut réfléchir avant de faire, et tantôt, il ne faut pas réfléchir avant de faire. C'est comme l'élève qui dit, pourquoi je ne suis pas bon en orthographe, parce que je ne me concentre pas. Mais en fait, quelqu'un qui est très bon en orthographe, il n'a pas besoin de se concentrer, ça vient tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, il faut varier les activités. Il y a des moments d'activité où, justement, il faut des réponses rapides, et se baser sur l'automatisation et montrer aux élèves que savoir des tables d'indication, c'est pas bien en soi, c'est bien parce que ça permet de libérer le cerveau pour des choses où il faut réfléchir, justement. C'est ça l'automatisation. C'est parce qu'on n'est pas obligé de réfléchir qu'on peut réfléchir sur des choses qui nécessitent de réfléchir. Et donc, lorsque l'élève doit compter avec ses doigts pour passer de 7 x 3 à 7 x 4, toute l'énergie qu'il va dépenser là, il ne peut pas la dépenser à résoudre un problème. Il demande un calcul et tout ça. Donc, entraîner les élèves à automatiser le calcul mental, je pense que c'est indispensable. Effectivement, ça a été montré aussi. Développer la mémoire à court terme, toutes ces choses-là sont essentielles. Mais voilà, il faut des moments différents et la grande réponse, je pense quand même, pédagogique à tout ça, c'est la variété, quoi. C'est arriver à diversifier les activités, tantôt plus réflexives, tantôt au contraire plus d'entraînement mécanique, etc.
Alors justement, on voit par exemple, bon, j'ai d'autres questions mais j'y reviendrai peut-être après, mais je voudrais vraiment parler de ça. Dans les pays nordiques, les élèves apprennent dans la nature, hein, un lien qui devient nécessaire pour développer la créativité, l'autonomie, le bien-être et la concentration, pourquoi pas. Comment adapter les cours de français, de maths et de sciences par le biais de la nature? On en a parlé un petit peu lorsqu'on a préparé cette émission.
Oui, oui, tout à fait. Actuellement, il y a un engouement pour ce qu'on appelle la classe dehors. Et, par exemple, il y a des rencontres qui vont avoir lieu fin mai, début juin à Poitiers, où il y a 800 inscrits. Enfin, c'est énorme, quoi. Et avec beaucoup de pays, comme vous l'avez dit, les pays nordiques, dans les endroits où pourtant la nature est pas, enfin, où la météo n'est pas très favorable à faire la classe dehors, beaucoup moins qu'en France. Et pourtant, il y a aussi le Canada aussi, on fait beaucoup ça. Là, on sort un numéro de cahier pédagogique au mois de mai là, que j'ai coordonné, qu'on appelle apprendre avec la nature. Alors, la nature, c'est pas seulement la forêt, c'est aussi la nature en ville. Hein. Je pense que on montre aussi que la nature, elle est autour de nous et parfois à deux pas. J'ai des élèves chez moi, à Nogent-sur-Oise, qui habitent à deux pas de l'espace forestier, qui vont jamais, quoi. Donc, l'école peut, effectivement, d'une part, pour des considérations écologiques évidentes, permettre une réconciliation, une reconnexion avec la nature, mais on peut aussi apprendre à travers la nature au sens large, hein, et être dehors, c'est pas forcément la nature. Et là aussi, c'est en développant l'imagination pédagogique, en quelque sorte, qu'on peut faire des maths dehors, en montrant, je sais pas, en repérant par exemple des formes géométriques qui existent autour de soi, en faisant des calculs. Et alors, en français, que je maîtrise mieux, moi j'ai fait des choses un petit peu comme ça, d'écrire à l'extérieur, et c'était des expériences très intéressantes chaque fois, où les élèves repéraient aussi tout d'un coup ce qui les entourait, alors que souvent ils sont aveugles ou sourds à leur environnement immédiat.
Ils ne font même pas attention au changement de saison, hein.
Oui, oui, c'est ça. Et des fois, ils ont des écouteurs en plus. Et là, je sais pas, un chien qui aboie, voilà. Et donc, je faisais écrire là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est les allers-retours entre des textes. J'ai fait une sortie à la mer enfin la baie de la Somme, il y a quelques années, où à l'avant on avait préparé des textes qui parlent de la mer, ensuite les élèves ont écrit devant des vagues et tout ça, et ensuite on a retravaillé, donc c'est aller-retour entre, en fait c'est pas seulement apprendre dehors, c'est faire des allers-retours entre le dehors et le dedans, et mais c'est, ça implique aussi de laisser un peu, comment dire, de casser un peu la forme classe traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle du prof quand on est dehors, et il faut accepter aussi ça. En France, on est trop dans le contrôle, et en plus avec aujourd'hui la sécurité qui est un impératif absolu, c'est-à-dire si un enfant joue avec la terre, c'est pas être sale ensuite, bon, c'est des problèmes qu'on rencontre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourtant, cette reconnexion avec la nature, elle est vitale pour...
Tout à fait. Et par contre, effectivement, nous, on le voit quand on va dans le jardin partager, une chose qui est très intéressante, c'est de leur dire « observez, regardez, soyez curieux, écoutez aussi », parce que souvent, ils n'écoutent plus. Écoutez le bruit du vent, les oiseaux, etc. Et c'est vrai qu'on peut apprendre plein de choses, et c'est au niveau de la science aussi.
Oui, tout à fait. Et au niveau de la, comme écouter, c'est aussi l'éducation musicale. Il y a des choses qui sont très, des expériences qu'on raconte dans les cahiers pédagogiques de personnes qui font des promenades sonores. Mais ça implique en amont aussi de faire ça avec les enseignants en formation. On va les amener aussi dehors et voir ensemble comment on pourrait exploiter. Mais le problème, c'est que il faut aussi accepter l'inattendu. C'est-à-dire que dehors, d'un coup, il peut y avoir une averse. Il y a un bruit bizarre. Voilà, ces choses-là, c'est aussi comment on les exploite après.
Mais vous, à votre niveau, Jean-Michel, vous voulez ouvrir une classe ouverte comme ça sur Nogent-sur-Oise? Vous voulez travailler sur cette façon de faire?
C'est-à-dire, déjà, il y a tout un travail autour des arbres. Qui est déjà, enfin, il y a des sorties en forêt où on voit que les élèves ne connaissent pas du tout.
Non, toucher le tronc, voilà. Ou alors regarder l'arbre à l'envers, c'est très intéressant aussi, mais ça, ils ne le font jamais.
Oui. Et puis, on essaye avec la ville, de végétaliser les cours, et donc ça veut dire aussi que on peut travailler là-dessus avec les enfants en leur montrant. La vie des arbres, par exemple. Et puis, en plus, il y a aussi autre chose, c'est que ça échappe à l'immédiateté. On parlait tout à l'heure de l'immédiateté. Un arbre, ça met des années à pousser. Et donc, ils verront pas... C'est leurs enfants, peut-être, qui verront certaines choses qui se réalisent. Et ça, c'est intéressant aussi de se placer dans le temps long. Et
dans le temps, dans le futur. Je crois que notre émission se termine. Luc me fait signe que oui.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Je remercie Jean-Michel d'avoir participé à cette émission.
Avec plaisir, il y a toujours plein de choses à dire. Mais en tout cas, bravo pour votre émission.
Merci. Si.
Émission qui sera diffusée le mois d'avril, le vendredi 7 à 19h, le lundi 10 à 16h30, le samedi 22 à 17h et le mercredi 26 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera le bac et Parcoursup. Merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulchien.fr. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie. C'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20h, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés sans copie à corriger. 2-3 Prozac.